dans une taverne du vieux Londres, où se retrouvaient des étrangers. Nos voix criblées de joie montaient de l'ombre, et nous écoutions nos cœurs chanter.
Bonjour Monsieur Edmond, c'est Je m'ennuie bien, nous sommes ensemble pour une heure.
C'est pas vrai. Si, pour une heure. Et il y a Monsieur Kogan dans l'émission?
Absolument, je suis encore en vie.
Ah, c'est bien, c'est bien.
Voilà.
Bon, on va renommer l'émission alors pour ce soir, Perdu de vue. Bien vu chez Perdu de vue. Donc on va pas faire ça, allez. Et donc on aura droit à un point culture, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de culture dans cette émission. Hein. Je dois bien vous le dire, Monsieur Kogan.
Absolument, je m'en doutais.
Voilà.
Allez, on parle chimie pour commencer. Quand une lampe LED remplace avec succès des catalyseurs polluants lors d'une expérimentation ratée. C'est beau, non, comme titre, non?
Alors, pouvez-vous expliciter?
Non, je ne sais pas, ça ne m'a pas intéressé du tout, en fait.
D'accord, on commence dans l'absurde.
Moi, j'aime bien les expérimentations ratées, bah, exactement. Allez, le retour d'une arnaque classique, mais en pire. Voilà, vous dites, qui c'est qui a écrit ça? L'arnaque au livreur mondial relais.
Ah.
Ça, ça fait peur, non?
Je ne sais pas.
Alors, je ne sais pas. C'est un mec qui vous contacte en disant qu'il a un colis pour vous. Et maintenant, grâce à l'IA, il y a carrément la photo d'un livreur qui a un colis à votre nom dans les mains.
Ah, on m'a parlé de ça, oui.
Et donc, le mec vous demande des sous qu'il faut tout de suite lui... Je ne sais pas quoi. Enfin, bon, visiblement, il y en a qui payent alors qu'ils n'ont rien commandé. Je ne sais pas. Ils espèrent qu'il y ait je ne sais pas quoi dans le colis. C'est étrange. Mais bon, en tout cas, faites attention, voilà, ne donnez pas d'argent au livreur, normalement tout est payé d'avance. Hein. Le constructeur Stellantis rappelle 200 000 véhicules.
Et
Peugeot,
alors, est-ce qu'ils ont entendu son rappel, les 200
Opel,
000 véhicules?
Fiat, je ne sais pas, le moteur pourrait prendre feu. Oh, c'est une broutille ça, c'est pas bien grave.
Ah bah bravo.
C'est bien, c'est bien. Alors, après les airbags qui vous explosaient à la gueule, maintenant les moteurs peuvent
prendre feu. Qui vous explosent toujours à la gueule, puisqu'il y a encore des campagnes de rappel. On ne les a toujours pas tous sortis du circuit. Hein.
Allez, en Allemagne, 4000 tonnes de pommes de terre à donner.
Oui, parce qu'il y a eu une récolte record.
Et ouais, parce que figurez-vous qu'il a fait beau en Allemagne. Moi, ça m'étonne, mais bon. Alors, en plus, ils avaient beaucoup, beaucoup planté de la pomme de terre cette année. Je ne sais pas pourquoi. Ils étaient à fond sur la patate. Bon.
Oui, puis je crois qu'il y a eu les gros industriels utilisateurs de pommes de terre, les fabricants de frites, hein, pour ne pas les nommer.
En tout genre.
Je crois ont été moins demandeurs. Il me semble avoir lu ça quelque part. Après, je ne suis pas avec fébrilité le marché de la pomme de terre.
Récolte record en Allemagne. Et donc, les agriculteurs se retrouvent avec des invendus. Et donc, ils ont préféré les donner. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal.
C'est pas bête.
Un automobiliste arrêté sur la 9 avait fraudé pour 13 000 euros de péage grâce à une arnaque redoutable.
Okay.
Alors, le mec, il mettait une fausse plaque pour passer le péage. Voilà. C'est vrai que c'est redoutable.
Ouh là là, puis c'est nouveau.
Oh là là. Bon, il s'est fait choper au bout d'un moment, vous voyez. Donc, il a fallu qu'il paye les 13 000 euros de péage plus une amende. Donc, au final, ça fait cher quand même. Hein.
Oui, on est peut-être pas quand même en présence de l'Arsène Lupin des autoroutes.
Hein. Non. Bon, je sais pas. En plus, je ne sais pas s'il est au courant, mais en général, une autoroute, il y a toujours une voie non payante. Hein. Si vraiment il ne veut pas payer, plutôt que s'embêter à changer ses plaques, il n'a qu'à prendre la voie non payante.
Non, alors, ce n'est pas une voie non payante, il y a un autre itinéraire
non
payant.
Oui, il y a un itinéraire non payant.
Une fois que vous êtes sur l'autoroute, c'est payant.
Qui n'est pas une autoroute, effectivement. Allez, ce magnifique titre, et on le remercie parce que Patrick, on peut toujours compter sur lui, mais ce n'est pas celui auquel vous pensez. Total Energy se plie à l'administration Trump et renonce à deux projets d'éolien en mer au profit d'investissements pétrogaziers. Vous savez...
Ouais, c'est génial.
Ouais, vous savez, Total Energy qui passe son temps en France à faire des pubs pour dire qu'ils sont verts. Hein ?
Voilà.
Alors Patrick Pouyanné, hein, évidemment, c'est de lui qu'on parle. Eh ben, il a dit qu'il avait fait un échange gagnant-gagnant avec l'administration de Trump, de Donald. Alors gagnant-gagnant, pourquoi ? Parce qu'il renonce à faire... il avait des énormes investissements donc, en éolien offshore. Mais bon, Trump, il n'aime pas ça, hein, parce qu'il trouve ça horrible. Et en plus, c'est dangereux pour les baleines. Et on peut compter sur Trump pour avoir des études scientifiques pour nous montrer tout ça, évidemment.
Oui, d'accord.
C'est bien connu, vous voyez bien, les baleines, quand elles sautent, si jamais elles passent dans les pales, bon, bah, elles sont découpées en tranches.
Puis, on avait bien compris que l'administration Trump, c'était un peu le champion de la défense de la biodiversité.
Eh bien oui, c'est ça. Donc voilà. Alors évidemment, il y a eu un petit chantage quand même parce que l'administration Trump...
Ah bon ?
Il faut...
Ça ne leur ressemble pas.
C'est quand même une petite bande de truands. Hein. On peut le dire ça à l'antenne. De toute manière, ils ne nous écoutent pas. Et donc,
ben non, puisqu'ils ne parlent aucune autre langue.
Donc ils ont dit, non mais vous arrêtez vos conneries avec... Ouais, d'ailleurs, vous l'avez vu cette séquence formidable.
Où il dit à des hispanophones...
Ouais.
Que...
Non mais votre langue de merde, j'ai pas le temps de l'apprendre, hein, si vous pouviez vous mettre à l'américain.
Après, c'est assez vrai. Hein, puisque
c'est une langue de merde ?
Alors non, c'est assez vrai, puisqu'en 80 ans, il a pas réussi à apprendre l'anglais.
C'est vrai, c'est vrai.
Donc c'est mort pour l'espagnol.
C'est mort.
Bon, en tout cas, voilà. Donc, alors, ce qui s'est passé, c'est que normalement, il y avait des dédommagements de prévus, puisqu'on leur interdit tout d'un coup de faire leur parc offshore. Mais on leur dit bien que s'ils veulent toucher leurs 800 millions d'euros, eh ben, il faut qu'ils les réinvestissent dans le pétrole et le gaz. Alors là, Patrick, il n'a pas réfléchi longtemps. Il a dit non, mais quand même, oui. Hein. Ces investissements contribueront à apporter à l'Europe le GNL dont elle a besoin et à fournir du gaz pour le développement des data centers aux États-Unis. Ah, c'est ça que je voulais chercher, mais je n'ai pas compris pourquoi du gaz pour les data centers.
Parce qu'il faut de l'énergie, c'est extrêmement demandeur.
Oui, mais pourquoi du gaz ?
Parce que c'est des centrales
à gaz. Ils ont des centrales au gaz à côté, là-bas ?
Des centrales électriques au gaz.
C'est horrible, tout ça pour les données, pour les data centers, mais c'est n'importe quoi.
Allez, vous savez que les data centers absorbent un quart de l'énergie électrique irlandaise actuellement.
Oui, bon.
Ah bah oui, bon, mais ça fait beaucoup.
Et les restes, c'est quoi ? C'est l'alambic ?
Oh, bravo ! Oh, bravo !
Oh.
Alors... Un titre qui va faire plaisir à M. Cogan, parce que vraiment, on n'y croyait plus. Comme quoi, il y a des épiphanies hein, qui se méritent, qu'il faut attendre.
Ça vaut le coup.
On peut regretter...
Ça vaut le coup de voir le jour suivant.
On peut regretter la minute de silence pour Quentin de Ranc à l'Assemblée, estime sa présidente Yaël Braun-Pivet.
Oui, elle a osé dire ça.
Madame, c'est incroyable. Alors évidemment, elle dit ça suite à quoi ? Notamment à l'enquête de Mediapart qui a retrouvé les textes absolument fébriles et délicieux du jeune Quentin. Moi, je soutiens Adolphe, mais chacun son truc. Simone Veil, cette salope meurtrière, on veut le fascisme.
Voilà, voilà.
Alors il y en a évidemment, ils se disent, ouh, ouais, c'est un peu, bon, voilà. Donc voilà, plus d'un mois après tout ça, hein, la mort de ce jeune homme, évidemment dans des conditions qu'on peut que regretter, mais enfin, qui n'était quand même pas très fréquentable comme garçon. Alors, elle nous dit, ah oui, alors, lorsqu'on regarde le profil de Quentin, effectivement, si on avait su, à ce moment-là, qu'il avait ce profil-là, voilà. Je pense que probablement, la décision n'aurait pas été la même et que nous ne l'aurions pas faite, cette minute de silence.
Qui aurait pu prévoir ?
C'est ça, aucune dignité.
Alors, comme le dit le journaliste de Libération... L'appartenance à la mouvance nationaliste du militant était pourtant connue et fort bien documentée dès le début. Mais bon, elle est seulement présidente de l'Assemblée nationale. Hein ?
Elle ne peut pas tout, elle peut pas avoir...
Elle peut pas être au courant de tout.
Exactement. Bon. Elle n'a pas accès à toutes les informations.
Voilà, un militant nationaliste, bon, elle ne voyait pas ce que c'était. Bon, c'est triste, c'est comme ça. Elle est plus sympathique, même si, bon, il y a eu deux morts quand même.
Ah, bon
ah oui, oh ben super, alors ça, c'est vraiment quel lancement.
Deux morts, mais une miraculée.
Ah. Oui, formidable.
D'accord.
Ils l'ont retrouvé.
Maintenant, on est dans un tel niveau d'absurdité dans ce monde que quand il y a des survivants, on s'en félicite.
Bah oui.
Génial.
Ils l'ont retrouvé encore attaché à son siège. Et je parle d'une hôtesse de l'air de la compagnie Air Canada qui a survécu au crash. Qui
survie,
a eu,
non, survécu.
Oui, survie, parce que c'était au présent le titre.
Non, elle a survécu.
Une hôtesse de l'air de la compagnie A1 survit au crash de LaGuardia à New York.
Ah, d'accord.
Okay. Les secours l'ont quand même retrouvée, donc attachée à son siège, 100 mètres plus loin. Elle a fait un bon vol. Alors, elle a beaucoup d'eau brisée, mais elle est en vie. Solange Tremblay, voilà, est vivante, est vivante. Et bon, malheureusement, le pilote et le copilote, ils sont morts. Ouais. Alors ce soir, après tout ce qui s'est passé, je ne voulais pas parler de politique, mais quand même, je vais en parler un peu parce que je suis tombé sur un truc. Ça... J'en ai éclaté de rire tellement fort que le plâtre du plafond s'est tombé. Réapprenons à aimer notre pays. Ah bon, alors déjà, il y a un mec en France qui sait qu'il y a des gens qui n'aiment pas le pays, hein, il va s'en occuper. C'est une proposition de loi. Et alors,
comment ça? C'est le titre d'une proposition de loi?
Oui, oui, enfin, c'est ce que dit le mec qui va la défendre. Je vais vous en dire un peu plus sur ce personnage. Je suis allé voir qui c'était, parce que je ne connaissais pas, Christophe Blanchet. C'est un jeune, comment ça s'appelle? Ça fait partie de ces gars que Macron nous a collés lors de sa première élection.
C'est
là.
Un jeune macroniste, ça s'appelle.
Oui, mais il n'est pas jeune, lui. Mais bon, il est allé chercher tout un tas de mecs qui n'avaient jamais fait de politique et il les a fait élire dans sa vague. Et voilà. Et donc, le mec est toujours là. Et donc, comment il veut nous réapprendre à aimer notre pays, Christophe Blanchet, puisqu'il va pouvoir, au nom des démocrates, parce que depuis, il a quitté La République En Marche pour aller du côté des démocrates. Eh bien, c'est tout simple. Il va faire une proposition de loi dans la niche parlementaire, là, d'initiative parlementaire, machin, pour enseigner la défense nationale dès la sixième.
Non.
Eh oui.
Comme en Russie, quoi.
Eh bien, exactement. Alors, justement, il prend l'exemple des pays baltes. Qui vivent en permanence sous la menace d'agression russe. Et donc, ils trouvent très bien que les lycéens, tout ça, estoniens, tout ça, ils aient droit à 35 minutes, 35 séances, machin, de défense nationale. Parce que quand même, hein. Et je suis sûr que si on allait demander à ces jeunes ce qu'ils en pensent, est-ce que vous voudriez vivre dans un pays où il n'y a pas de menace russe ou est-ce que vous avez envie de vivre dans votre pays et aller faire les gogoles avec des armes? Ah ben, ils auraient vite choisi. Bien sûr qu'on a tout le monde envie d'être militaire une fois dans sa vie.
Oui, alors là, pour le coup, le choix se pose pas tellement pour la menace russe.
Mais c'est bien ce que je dis. Mais s'ils avaient le choix, je pense qu'ils préféraient vivre sans menace russe.
Oui, en effet, mais on leur demande pas leur avis, j'ai l'impression.
Alors le mec continue. Depuis la suspension du service national obligatoire en 1997, ouais, alors ça s'était délité bien avant quand même, une part croissante de la jeunesse ignore les principes et les acteurs de la défense nationale.
Ouais, non, mais ils ne savent pas non plus comment fonctionne un tribunal, ni l'Assemblée nationale, ni rien du tout. Donc bon.
Oui, et puis alors, rappelons quand même que c'était le service national, c'était que pour les hommes. Hein. Donc ça voulait dire qu'il y avait pendant une éternité, en fait, la moitié du pays qui n'aimait pas le pays, hein, puisque les femmes n'avaient pas accès aux armes. Donc elles n'aiment pas le pays.
Ouais, enfin,
Il faut le dire.
Elles fabriquaient les futurs soldats quand même.
Ouais, mais ouais. Je ne sais pas si c'est suffisant.
Ah bon.
Ben écoute. Écoutez, c'est quand même le seul rôle qui leur était reconnu dans les années 20, au moment où on a largement accru la pénalisation de tout ce qui était contraception et avortement, parce que justement, on se disait peut-être que les femmes, elles nous font pas assez de chair à canon pour la prochaine.
Bon, en tout cas, ce monsieur, il a l'air de bien aimer ça. Et puis alors, il a plein d'idées, vous voyez. Classe de 6e à terminale, et il dit on peut parler de la défense nationale dans toutes les matières. Il ne faut pas se restreindre. Par exemple, en sciences physiques, eh ben, les physiciens, ce n'est pas eux qui ont inventé la puissance nucléaire. Donc on peut en parler. La vitesse de propulsion des missiles, on peut en parler en cours de sciences physiques.
Mais bien sûr. Alors, pour mes 6e 3 ce vendredi, j'ai prévu, en classe, on refait une bombe nucléaire.
Voilà.
Bon, ceci dit, c'est la seule fois où j'ai eu la moyenne en physique. C'est le jour où on a parlé du nucléaire, hein.
Oui, alors, j'espère que vous n'avez pas fait de TP.
Donc, les prochains contrôles. Monsieur Poutine vient de tirer un missile sur votre ville. Le missile file à telle vitesse. Vous-même, vous devez courir à quelle vitesse pour échapper au missile? Eh oui. Et peut-être même, on pourrait aller en sciences naturelles pour calculer la consommation d'oxygène quand on court très très vite parce qu'on a un missile sur les fesses. Bon, alors tout ça, évidemment, est totalement ridicule. J'espère que ça ne passera pas. Mais bon, dans l'état actuel de l'Assemblée,
c'est pas gagné.
J'ai envie de dire, voilà, rien n'est... Alors, Qui est ce Christophe Blanchet? Parce que je me suis dit, bon, ben, quand même, il faut que j'aille voir le gars, quand même, il m'a l'air sympa, mais bon. Alors lui, c'est un fou d'armée, hein, puisqu'il a fait son service militaire chez les parachutistes.
Oui, donc c'est pas un jeune du tout.
Non, 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 il est né en 73, je crois.
Oh, le pauvre.
Et il a décidé d'y passer 14 mois de plus, hein, tellement il a aimé ça. Vous voyez? Alors, il était dans la 11e division parachutiste de Toulouse. Donc, ouais. Dans quel secteur d'activité a-t-il travaillé? Bon, je ne veux pas dire du mal, hein, mais bon, le mec, il habite Caen déjà, bon.
Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de...
Et il travaille...
Mais ça sort d'où, ça?
Et il travaille bar, hôtel, restaurant, boîte de nuit. Pour apprendre à aimer son pays, il y a mieux. Mais bon...
Et il a servi quelques cocktails. Hein.
Ah ouais, sûrement.
Oh, bravo, bravo, monsieur Kogan.
Mais pas des molotov.
Non, mais j'ai quelques soirées en souvenir. Quand
bah, oh là là, on va tout savoir du passé, du non. passé tumultueux de monsieur Kogan avec monsieur Blanchet.
Oula.
Et oui. Et donc, il a été représentant syndical des débits de boissons de la région Normandie. Hein, là, il y a du taf quand même. Donc, vous voyez, bon, quand même, un mec sérieux. Donc voilà, je vous l'ai dit, un jeune macroniste. Alors, quand il est élu, 55%, bon, c'est pas mal, en 2017, il va évidemment, il choisit d'être membre de la commission de la Défense nationale et des Forces armées. Donc depuis, eh ben, il a choisi d'autres trucs. Finalement, il est coprésident du groupe d'études Chasse et Pêche à l'Assemblée nationale. Oh, quelle surprise!
Il est parfait, quoi.
À mon avis, il chasse en parachute.
Arrêtez, arrêtez, je suis amoureuse.
Et son dernier, c'est qu'il a décidé d'être vice-président du groupe d'études cheval. Donc, il doit même chasser à cheval, j'imagine. Comme ça, il cumule les deux.
Pas forcément. C'est peut-être pour faire du... Comment ça s'appelle? C'est le polo. Le polo à cheval, ça se fait à cheval, non?
Oui. Le criquet, tout ça, vous voulez dire?
Ah, on peut faire, oui, du criquet à cheval, non?
Mais on est en France, Madame Ariette. Lui, il parle de réaimer la France, pas l'Angleterre. Bon, en tout cas, voilà. Alors, je vous donne des nouvelles fraîches. Donc, il était élu à Merville-Franceville, dans le Calvados, comme conseiller municipal. Et donc, évidemment, il a participé aux dernières municipales. Il avait poussé Déborah Polic, tête de liste, et puis il a tout fait pour qu'elle soit élue, puisque lui-même ne pouvait pas être élu, étant député. Il ne peut pas être député et maire. Enfin bon. Et donc, il était quand même deuxième sur la place, mais non. Mais non, c'est Marie Arnoux qui l'emporte dès le premier tour, hein, avec Un village pour tous. C'est beau quand même comme truc de campagne. Et donc, c'est Marie Arnoux qui va succéder à Olivier Paz, maire emblématique de Merville-Franceville. J'aime bien le emblématique. Bon, le mec, il est resté 36 ans quand même. Mais enfin, le emblématique, ça m'amuse parce que quand même, ils étaient à peu près 1500 mecs à aller voter, hein. Donc, on voit la taille du village. Mais c'est pas grave, le gars est quand même maire emblématique.
Il est maire emblématique de ce village.
Voilà, voilà, voilà.
Bah vous êtes bien taquin, vous.
Ce qu'il faudrait quand même, c'est que Christophe Blanchet apprenne à aimer la défaite. Parce que depuis, avec Déborah Palik, donc sa tête de liste, ils ont décidé qu'ils s'en allaient. Voilà. Ils ne siégeront pas dans l'opposition, ça ne les intéresse pas. C'était maire ou rien. C'est sympa pour les électeurs, je trouve, ce genre de truc. Alors, je finis, parce que comme j'ai commencé à lui tailler un costard, autant qu'on ait la totale. Loi du plomb, qu'a voté Christophe Blanchet?
C'est pas la peine, il y a zéro suspense.
Oui, il a voté pour. Et alors, ce qu'il aime faire, il l'a déjà fait deux fois, c'est lorsqu'il y a les hommages pour le débarquement en Normandie, eh ben, il monte dans un petit avion et il saute en parachute. Pour rendre hommage, évidemment, aux héros du débarquement. Voilà. C'est beau, quand même. Un sacré personnage. Okay. Vivement que sa loi passe.
Eh bien, on sait avec qui vous passerez vos prochaines vacances.
C'est ça.
Voilà.
Mettons l'armée dans tous les collèges de France, dans toutes les écoles et tout. C'est important, hein, qu'on leur apprenne à faire des balles et tout ça dès le plus jeune âge. Plutôt qu'ils aillent jouer à Brawl, je sais pas quoi, là, c'est vrai. Madame Henriette, de quoi voulez-vous nous parler ce soir? Je m'ennuie bien.
Je vous parlerai bien de dictée, mais non, en fait. Puisqu'on parle d'armée, moi, j'ai envie de vous parler de notre dirigeant préféré, bien sûr, Kim Jong-un. Hein. Je sais, j'ai de nombreux courriers d'auditeurs, hein, qui s'inquiètent pour Kim Jong-un. et assez légitimement. Eh bien, tout va bien. Si vous vouliez savoir où en est l'idylle entre M. Poutine et M. Kim, eh bien, c'est tout simplement le parfait amour. Vladimir Poutine a été le premier à féliciter Kim Jong-un pour sa surprenante réélection.
Je ne savais même pas qu'il y avait des élections en Corée du Nord.
Bah, qu'est-ce que vous croyez? Bien sûr. Et elles sont parfaitement libres, comme bien vous vous en doutez.
Alors moi, ce qui m'étonne, c'est que les Américains ne soient pas allés l'éclater. Parce que s'ils ont peur de l'Iran, qui n'avait pas l'arme atomique, ils devraient avoir peur de Kim Jong-un. Parce que lui, on sait qu'il a réussi à faire des explosions nucléaires.
Oui, on va en parler tout à l'heure, d'ailleurs.
Ah, très bien.
Et donc, c'est voilà. C'est des logiques qui m'échappent. Donc... Le premier message venait de la Russie. Après, bon, il a ses autres amis hein, au Vietnam, en Biélorussie, tout ça.
En même temps, j'ai envie de dire, Vladimir dégaine vite, hein, puisque quand en Iran, ils ont perdu leur chef, quand il y a eu le deuxième élu, c'est Vladimir l'a tout de suite félicité.
Oui, il a tout à fait...
Il a vraiment de très bonnes fréquentations, quand même.
En effet. Et Kim Jong-un a répondu que Pyongyang est toujours aux côtés de Moscou. Et que c'est une alliance forte et inébranlable.
Et c'est vrai que vous nous aviez parlé que des pauvres soldats coréens étaient sur le front en Ukraine. Et oui, c'est magnifique.
Et oui, et donc, a priori, ils n'ont toujours pas été,
rapatriés. Ouais. Et oui, il y en a pas mal qui s'étaient fait prendre et prisonniers. Oui,
oui parce que ceux qui sont toujours vivants n'ont toujours pas été rapatriés parce que bizarrement, on craint pour leur sécurité.
En Corée du Nord ? Mais je vois pas pourquoi.
Voilà. Alors, il y a des gens qui savent pas apprécier leur chance hein, et qui crachent dans la soupe, on peut pas dire autrement, et donc des Nord-Coréens qui passent au Sud. Voilà.
Non, mais c'était peut-être pour le concert de BTS.
Peut-être. En tout cas, les Sud-Coréens, qui ont toujours des idées rigolotes, se sont dit que pour ceux qui venaient des zones où on fait des essais nucléaires, ça serait rigolo de les tester.
De voir s'ils brillent dans la nuit.
Exactement. Et donc, depuis quelques années, quand il y a des transfuges nord-coréens qui viennent de ces régions-là, eh ben, on leur fait des petites analyses, tout ça, pour voir où ça en est, leur
petit cancer.
Non, c'est plutôt, on regarde directement le génotype, en fait. Hein.
Ah !
Ouais, direct.
Et on voit qu'il y a des trucs qui ont bougé.
Eh ben oui. Donc, depuis 2023, on a fait... sur la période 2023-2025, il y a 174... évidemment, c'est des petits échantillons. Hein, vous savez, ils n'arrivent pas tous à passer la frontière. Hein, y a de la perte. Hein. Donc, c'est sur 174 qui ont été étudiés, il y en a 44 qui présentaient des traces d'anomalies génétiques. Ça fait à peu près un quart. Et puis, sur les dernières études qui viennent d'être menées, là, très, très récentes, on est à peu près pareil. Hein. On est à peu près à un quart, entre un quart et un tiers de ces personnes qui présentent des anomalies chromosomiques. Mais sinon, ça va.
Oui, non, mais chaque fois que vous nous parlez de la Corée du Nord, on sent bien que c'est un pays où on a envie d'aller.
Ah oui, c'est vachement sympa. Et d'ailleurs, je vous en parlerai peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas, ou la semaine d'après. Kim Jong-un s'inquiète beaucoup quand même de la mauvaise image de la Corée du Nord. Et donc, il envisage de créer une police. Déjà, c'est un concept. Créer une police pour donner une meilleure image.
Oui, effectivement, c'est assez étrange.
Oui.
C'est-à-dire que vous aurez des Coréens du Nord qui viendront chez vous, qui vous diront « Est-ce que tu as une bonne image de la Corée du Nord ?»
Alors,
non.
C'est probablement interne. Je ne suis pas sûre que, la police nord-coréenne soit l'administration qui redore le plus l'image de la Corée du Nord, mais peut-être je me trompe.
Non, mais vous avez peut-être mal compris le concept. Vous nous en direz plus une prochaine fois, Madame Henriette.
Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris. Et puis un gros accident absolument dramatique en Corée du Sud. C'est juste pour vous montrer le décalage de traitement. Il y a eu un incendie, c'est un énorme accident du travail en fait, un incendie dans une usine de pièces automobiles qui a fait 14 morts et 60 blessés.
Ah oui, quand même. Ouais, on n'en a pas entendu parler.
C'était à Daejeon. Oh, bah, vous savez, les gens qui meurent au travail, ça n'intéresse pas grand monde.
Ouais, visiblement, ça n'intéresse personne.
Bah, sauf en Corée du Sud, où le président en personne est venu présenter ses excuses. Et donc, bien
évidemment... Quoi, c'est lui qui avait foutu le feu ?
Ben non. Mais il considère qu'en tant que président, quand il y a un gros accident du travail, sa responsabilité est engagée.
C'est beau.
Oui, c'est fou.
Effectivement,
hein.
C'est une autre culture.
Et donc, bien évidemment, donc il s'est rendu évidemment sur le site. Et donc, ben, derrière, il a promis à la fois une enquête
rigoureuse.
Voilà. Et puis également, un projet réglementaire pour que ça arrive un peu moins souvent. Alors, il faut bien reconnaître quand même qu'il y a souvent de gros accidents du travail en Corée du Sud. Dans le milieu industriel et également dans le bâtiment. Voilà. Je poursuis avec les bonnes nouvelles ou...
Mais poursuivez, ou poursuivez. Kogan... Il vous reste 5 minutes et après nous passons à M. Kogan.
Bon, alors juste pour la blague, je vous amène dans les Alpes. Dans les Alpes...
Françaises
des... ou... Suisse, alors, eh ben, les deux, figurez-vous. Oh. Dans les Alpes des riches, hein. Connaissez-vous l'Eliski?
Non, c'est une boisson?
Pas du tout. C'est pour les riches. Et bien que les gens qui organisent ça s'en
défendent,
évidemment,
alors,
et disent que c'est de la caricature.
Ah oui, c'est nocif, je sais. C'est quand vous prenez un hélicoptère pour aller vous faire poser en haut d'un sommet et vous descendez à ski.
Exactement. Et alors, ça permet d'être entre riches, puisque, en fait, ça permet...
Ah bah, vu le coup de l'hélico, oui.
Voilà, ça permet de faire du hors-piste et de, donc, évidemment, de s'extraire de ces stations de ski où on est obligé de fréquenter... tout le monde, il y a trop de monde et puis potentiellement, alors des pauvres, il y en a pas beaucoup dans les stations de ski, mais des moins riches potentiellement. Donc ça, c'est insupportable.
Par contre, il faut que ce soit un peu encadré quand même. Hein. C'est pas à la portée du premier venu. Hein. C'est un peu dangereux quand même.
Alors, a priori, non. Maintenant,
il y a des endroits où c'est devenu standard.
Ah ben, on verra. Il y aura peut-être un petit peu d'accidentologie. Hein. Mais non, a priori, c'est la mode de le faire, même si on est un skieur moyen. On verra ce que ça donnera.
Et bilan carbone, nickel.
Alors, bilan carbone, nickel. Et puis surtout, bilan bon citoyen, nickel. Puisqu'en fait, c'est interdit par la loi.
Ah bon ?
Donc,
Et là, comment ils contournent ?
Ah ben, écoutez, c'est très simple. Vous allez dans votre station alpine, pas très loin de la frontière suisse. Vous prenez un petit bus ou enfin une navette qui vous amène de l'autre côté de la frontière. Et puis là, c'est possible. Ou bien, carrément, vous contournez la loi, et puisqu'en fait, la loi avait été pas très, très bien rédigée, et donc elle était facile à contourner. Ou bien, tout simplement, parce que vous êtes riche, vous n'en avez rien à foutre de la loi.
Et vous paierez l'amende, au cas où, c'est tout.
Et vous prenez votre...
Le petit tour en hélico sera plus cher.
Et vous prenez votre hélico en France, et vous atterrissez en France, et de toute façon, qui viendra vous emmerder ? Voilà. C'est formidable quand
même. Mais Madame Henriette, mais calmez-vous, c'est pas grave.
Ça m'agace un petit peu quand même. Hein. Vous savez que j'ai voilà.
Moi, ce qui me fait peur, surtout,
J'ai un certain respect pour la montagne et un respect certain.
C'est qu'avec leurs hélicos, ils risquent de découper des baleines. Hein. Faut qu'ils fassent attention.
Oui,
quand même.
Voilà, faut faire attention. Donc voilà, c'est interdit, mais ça se fait quand même et ça se fait de plus en plus.
Ah oui, ben ça c'est normal, il y a de plus en plus de riches, donc c'est la logique.
C'est même pas très cher en fait, les premiers prix c'est à 500 euros par personne.
Oh là 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 là.
Ouais, enfin ça fait cher la descente de ski, excusez-moi.
Ah oui, mais enfin, ne pas être avec la plèbe, ça n'a pas de prix.
Excusez-moi, ah oui, des pots de chamois c'est moins cher. Hein. Vous mettez ça sur le ski, vous pouvez monter, puis ça vous prend du temps de monter au sommet. Hein. Après vous êtes content de descendre. Hein.
Ah, et dire que j'ai jamais fait de ski, eh ben...
Vous pouvez vous en féliciter. Moi non plus, Monsieur Kogan, comme je veux pas être désagréable, mais je vais l'être quand même, comme beaucoup de gens qui aiment vraiment la montagne.
Non, écoutez, Monsieur Kogan, il n'est jamais trop tard. Quand vous le voulez, on vous paie un Eliski.
Non.
Alors, il y a d'autres... ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces stations, qui sont quand même déjà... petit peu sélective hein, au niveau de...
Bah, il faut un héliport, hein, tout ça.
Non, 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 dans les stations de ski des Alpes. Hein, ah. On ne va pas se mentir. Hein, mmh. Voilà.
Ouais, c'est pas, on ne ferait pas ça dans les Pyrénées, c'est sûr.
Ouf. Ouf. Voilà. Alors là, Fontaine, je ne boirai pas de ta
moi,
neige.
Moi, je proposerais bien Christophe Blanchet. On le monte en hélico, il saute en parachute et après, il finit en ski.
Mais c'est peut-être déjà fait.
Ah ben sûrement.
Donc, en fait, dans ces stations, eh bien, on voit le développement de tout un tas d'activités. Alors déjà, le ski, c'était suffisamment perturbateur pour ces écosystèmes qui sont fragiles, hein, les écosystèmes de montagne, ne nous le cachons pas.
Il n'y a personne, Madame Mariette, il n'y a que de la neige.
Voilà. Mais là, maintenant, on a tout un tas de nouvelles offres. Donc, on a les vols gourmands où vous mangez dans l'hélicoptère. Voilà.
C'est débile, mais sérieux.
C'est ça.
Pardon, j'ai été vulgaire, je m'en excuse.
Non, mais il n'y a que des riches pour faire ce genre de truc. C'est vraiment quand tu ne sais plus quoi foutre de ton fric, quoi.
Voilà.
Si je pouvais manger dans un endroit désagréable, pas confortable, qui pue et qui ait du bruit.
Alors, ah pour ceux qui n'aiment pas le ski, ou qui ont deux pieds gauche, vous avez maintenant des vols panoramiques aussi, où vous ne faites que monter dans un hélico ou un avion pour voir la montagne d'en haut, et puis créer un petit peu plus de pollution sonore.
C'est bien quand je pense qu'à côté de ça, on a des articles pour nous dire « Oh là là, Google Earth, c'est quand même beaucoup de données pour rien. » Ben, je sais pas. Hein. Entre ça et prendre un hélico pour aller voir un sommet...
Et puis, vous avez bien sûr ceux qui trouvent que le ski, c'est pas assez perturbant ou perturbateur et qui donc ont une espèce de motoneige. Comme ça, ça fait un maximum de bruit, ça pue... C'est formidable.
Mais non, elles sont électriques, madame.
C'est une façon d'apprécier la montagne qui est quand même parfaitement étonnante.
Moi, j'adore la montagne. Hein. Quand je fais la chasse aux chamois, c'est très sympathique.
Arrêtez.
Écoutez, si vous la faites à l'arc, déjà, c'est un petit peu plus respectable.
Ah, le dahu seulement. Il n'y a que le dahu que je chasse à l'arc.
Absolument.
Pour lui laisser une chance. Bon, monsieur Kogan.
Bon, ben, je vois que vous êtes en forme, hein. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, mais voilà.
Alors,
bon.
C'est pas nous, c'est l'humanité.
Absolument. Alors, mes chers compatriotes, je n'ai pas été présent dans cette émission depuis quelques semaines. Alors, permettez-moi de dédier cette chronique à une personne disparue. Une star toute catégorie confondue, hein, le drame, le polar judiciaire, le glam, le bling-bling, le polar judiciaire. Ah, mais... On me dit qu'elle pourrait faire son comeback cet automne dans un nouveau polar judiciaire. Et évidemment, j'ai bien surnommé Rachida Dati. Voilà, voilà, c'est fini, comme disait Jean-Louis. Hein. Alors, depuis la dernière fois, il y a eu du vrai cinéma, par contre, hein, puisqu'il y a eu les Oscars, voilà, avec encore un sacre pour Jessie Buckley, bien mérité. Et peut-être plus surprenant pour un film de genre, hein, en l'occurrence Sinners, qui a été particulièrement sacré. Alors, une fois n'est pas coutume, pour attaquer sur de bonnes bases, je vais parler aujourd'hui de deux films français. Voilà. Oui, je vois votre regard interloqué.
Alors, et encore, vous ne voyez pas le mien, M. Kogan, hein, parce que alors là, moi, je suis... voilà.
Et alors, il faut voir ces deux films français absolument, et pour des raisons très différentes. Enfin, vous allez voir.
Alors, je veux quand même prévenir nos auditeurs. Hein. Deux films français, Monsieur Kogan, La fin du monde est proche. Repentez-vous.
Oui, absolument, le monde a changé et j'en ai pris bonne note. Alors, le premier, Les rayons et les ombres. Ça ne vous surprendra sans doute pas que je sois allé voir ce film. Alors, le titre est issu d'un texte de Victor Hugo. Et cela prend tout son sens dès le début, puisque dans ce film, on suit l'histoire vraie de l'amitié entre Jean Luchaire, journaliste pacifiste, et Otto Abetz. Otto Abetz, au départ, c'était un garçon assez modeste, mais il va finir ambassadeur de l'Allemagne nazie à Paris. Voilà.
On fait donc, la carrière qu'on peut. Hein.
Voilà, voilà. Donc, tous les deux, eh ben, étant évidemment de véritables chantres de la collaboration, franco-allemande. Alors au départ, pour eux, l'amitié franco-allemande est sous l'angle de la réconciliation et ça finit sous l'axe de la collaboration. Voilà. Donc on y suit aussi Corinne, jeune vedette du cinéma de la fin des années 30, qui est la fille de Luchaire et qui va le défendre jusqu'après sa mort. Voilà, le trio... Est-ce que vous m'entendez ?
On vous entend,
ah, on vous
fort
entend
bien.
Très bien, très bien.
Je ne vous vois plus, mais je vous entends. Alors, le trio d'acteurs, c'est d'abord Nastia Goller-Beva, enfin sortie des films de son père, Léos Carax, hein, en l'occurrence. Auguste Dill, bon, alors, on ne présente plus cet acteur allemand qu'on voit partout. On l'avait vu en Docteur Mengele récemment. Et Dujardin, bon, bah, voilà. Alors, Dujardin, eh ben, ces trois-là sont éblouissants. Et leurs personnages incroyables, entre naïveté, grandeur et décadence, on suit une quinzaine d'années tragiques entre faste et glissement vers l'abject. Et l'ambivalence de Dujardin donne une vraie épaisseur à ce personnage, ce collabo de l'écrit, puisque évidemment il s'agit d'un journaliste, mais qui est aussi un véritable escroc complètement pervers, qui était donc Jean Luchaire. Bref, au-delà de ça, une réalisation soignée, originale, un rythme parfois déroutant, mais tout à fait calculé, et donc aux manettes Giannoli, qui continue sur sa lancée depuis l'apparition, de mieux en mieux. Voilà. Donc ne pas rater, y compris le réquisitoire au procès par Toretton, qui est absolument grandiose, voilà. Acteur pour des tas de raisons qu'on ne voit que trop rarement. Et donc, c'est un de ces moments qui résonne fort avec notre époque. Et il y en a plusieurs et qui remet bien les pendules à l'heure. Voilà, donc un film formidable, consistant, voilà, génial. Notre époque complexe méritait aussi le deuxième film dont je vais parler ce soir. Mélissa Godet y va fort avec ce film qui la propulse enfin dans la lumière, hein, je dirais. Donc, un film de femmes sur des femmes. La maison des femmes, c'est son titre. C'est aussi une histoire vraie. C'est celle du centre d'accueil pour femmes de Saint-Denis, adossé à l'hôpital. Là, on y soigne les corps et les âmes. Karine Viard, en chef d'orchestre, a acharné à sauver son service. Une équipe à 90% féminine pour écouter, redonner confiance, aider les femmes victimes de violences, de viols, de tout ce que vous pouvez imaginer. Qui, elles, doivent faire face entre, elles aussi, hein, les soignantes doivent faire face entre, à leur vie professionnelle et à leur vie privée aussi. On est touché tout de suite par le réalisme et aussi par la hauteur du propos. Parce que être femme, aujourd'hui, c'est, et malheureusement, être forte et courageuse nécessairement, alors que ça devrait être simple. Or, ce que montre le film, c'est qu'il faut beaucoup de force à ces femmes pour continuer d'exister après une excision, après un viol, après des violences conjugales, etc. Du courage pour l'équipe qui les soutient et qui souffre parfois avec elles. Alors, c'est un film social, on ne va pas se mentir, mais ce n'est pas un film moralisateur. On est happé par le dynamisme, donc c'est un vrai film de cinéma. Voilà, et puis la foi inébranlable des soignants qui sont représentés. De la chef à l'aide-soignante. Les actrices sont merveilleuses. Laetitia Deutsch est parfaite, en sage-femme très volontaire, tiraillée. Hey Haidara est vraiment géniale. Et d'ailleurs, on va la retrouver, et ça c'est chouette, en maîtresse de cérémonie au Festival de Cannes. Voilà, donc là, elle se donne à fond. Bref, c'est du bon cinéma qui parle d'une cause juste. Quand le cinéma français est bon, eh ben, j'aime à le dire. Et là, il est très bon. Aussi bien sur le devoir de mémoire que sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans ce qu'elles ont de plus concret. Voilà. Donc voilà. Alors voilà, c'était mes deux films de la semaine.
On avait compris, M. Kogan. Autant dire que c'est pour rigoler. Bon, ben ok.
Pas trop, mais en tout cas, vous passerez quand même un bon moment de cinéma. Sinon,
c'est vrai que ce que nous avons évoqué, Monsieur Edmond, était particulièrement léger et guilleré.
Ben oui, absolument.
Je pense qu'on peut donner des leçons en matière de frais et printaniers.
Ah ben quand même, les Liskis, ça fait rire.
Tout à fait. Alors, on ne parlera pas de, enfin, on n'en parlera plus ou on n'en parlera jamais de Star Trek, Starfleet Academy, hein, puisque la série est déjà annulée. Voilà. Ben voilà, vous ne savez pas ce que c'est. Eh ben, tant pis, c'est trop tard. Après, on s'étonnera que je ne regarde plus que les séries sur Arte, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors, pour finir sur la partie cinéma, tout ça, eh bien, je vais finir sur Trump. Bah oui, parce que à cause de lui, l'humoriste Stephen Colbert va prendre une retraite anticipée. Alors, vous voyez sans doute qui c'est, ce gars avec ses lunettes, qui est très, très drôle, très, très fin.
Qui fait premier de la classe.
Ah ben, ouais, mais qui est génial. Et donc, qui est donc obligé de s'en aller, hein, on a bien compris. Eh ben, écoutez, comme c'est un grand fan de Tolkien, eh ben, il a décidé d'écrire un nouveau film sur Le Seigneur des Anneaux. Voilà. Sachant qu'un préquel, donc signé Andy Serkis, The Hunt for Gollum, est en production. Voilà, et puis sinon, bah, côté cinéma, autant vous dire que j'attends avec beaucoup d'impatience le prochain documentaire de Pierre Karl. Voilà, on reste dans le chaud et le frais, là, vous voyez, enfin, je ne sais pas comment dire.
Ouais. Mais...
Puisqu'il s'agit d'un documentaire sur l'affaire Abdallah. Autant vous dire que ça va piquer. Voilà, voilà. Alors, pour continuer sur la bonne humeur, hein, avant de passer à quelques dates pour finir, eh bien, écoutez, comme je n'ai pas été là depuis longtemps, autant vous dire que j'ai une page pleine
De disparitions.
Alors, je ne sais pas si je vais tous les citer parce que c'est compliqué. Évidemment, il y a des tas de personnes du monde du cinéma qui ont décidé de passer de l'autre côté. Alors, des gens qu'on avait sans doute oubliés, comme Gemma Cuervo ou Stephen Hibbert, ou je pense aussi à Valérie Perrine, qui était une actrice formidable, qui avait joué avec Paula, Kaplan, Yates, voilà, mais voilà, qu'on avait sans doute oublié. On avait sans doute moins oublié Chuck Norris, voilà. Rappelons quand même que le seul bon film de Chuck Norris, c'est sans doute le premier, en l'occurrence, La Fureur du Dragon en 72. Autant vous dire que si on peut oublier ce garçon, c'est peut-être pas plus mal vu ses positions politiques, mais... Pour beaucoup de gens, et de ma génération en particulier, ça reste le héros absolu des mèmes sur Internet. Voilà.
Ah oui, c'est ça. Non, mais son image, il l'a complètement dépassé, le garçon, quand même.
À tel point que lui-même s'en amusait. Voilà. Côté France, deux personnes, pour moi, importantes, sont disparues. Alors, tout le monde se moquait d'Isabelle Mergault, de la façon dont elle prononçait, à cause de son chuintement. Mais, c'était un personnage qui était compliqué sans doute à comprendre, mais il n'empêche que c'est l'immense réalisatrice de « Je vous trouve très beau ». Et rien que pour ce film avec Michel Blanc, elle mérite un hommage. Et pour finir sur le cinéma, Bruno Salomon avait 55 ans. C'est beaucoup trop tôt pour un type qui m'a quand même beaucoup fait marrer. Voilà.
Qui était un grand ami de Jean Dujardin, hein. Ils ont commencé ensemble.
C'était les Nous, c'est nous. Côté musique, Neil Sedaka était un crooner, John Hammond un guitariste, Terry Cox, Terry Cox, c'était quand même le batteur de Pentagle, immense groupe de folk et qui avait joué avec Bowie et Elton John, entre autres. Mike Vernon, grand producteur anglais. Jacques Michel, un chanteur québécois, Country Joe McDonald, un des chanteurs qu'on avait pu voir, enfin pas moi, mais la génération précédente l'avait vu à Woodstock, voilà. Donc chanteur très engagé.
Et pourquoi pas vous, Monsieur Cogan ?
Pourquoi pas moi, quoi ?
Pourquoi vous n'étiez pas à Woodstock ?
Parce que c'était la génération précédente, bien évidemment.
Mais évidemment, deux grandes figures de la musique pour moi sont disparues ces dernières semaines. En l'occurrence, un guitariste gallois, vous avez tout de suite compris de qui je veux parler, de Phil Campbell. Phil Campbell avait 64 ans et il rejoint le leader de son groupe, en tout cas celui dans lequel il a joué le plus longtemps, Motorhead. Voilà. C'était un immense collectionneur de guitares, il en avait plusieurs, je crois qu'il avait plus de 300 guitares chez lui. Et c'est difficile de ne pas parler, et avec un peu d'émotion pour moi, parce que j'étais un grand fan de Dolores Keane, qui était une chanteuse irlandaise, et qui était la chanteuse, en l'occurrence, de Dedanan. Voilà, alors je finirai quand même par saluer d'autres artistes et d'autres figures du monde philosophique, littéraire et intellectuel ou autre, parce qu'il y a aussi Paul Conroy. Paul Conroy, c'était un grand correspondant de guerre. Il avait entre autres été à Homs, il avait été blessé à Homs, là où une de ses collègues avait été tuée, on s'en souvient peut-être. Clément Oubrerie était un grand nom de la BD. Peter Schneider était un écrivain allemand. Antonio Lobo Antunes, immense écrivain portugais. Jean-Marie Glaize, écrivain français assez connu quand même. Michel Zimmermann était un grand spécialiste du Moyen-Âge. Jacques Revel, lui aussi historien. Sam Keith, un dessinateur de chez Marvel et DC Comics, un petit peu trop tôt aussi. William Siditz, écrivain de SF américain. Lane Deaton, écrivaine anglaise. Écrivain anglais, bref. Et José Antonio Bengoa Cabello, qui était un historien spécialiste des Mapuches. Mais ça ne vous a sans doute pas échappé, parmi les grands noms du monde intellectuel qui ont décidé aussi de s'en aller, eh bien, c'est difficile de ne pas avoir un mot pour Herman. En réalité, c'était Herman Huppen. Voilà, et donc plus connu sous le nom d'Herman, immense dessinateur de BD. Évidemment, on pense à sa série Jérémia, Jugurta ou encore Comanche ou Les Tours du Bois Maury. Moi, c'est des séries qui m'ont énormément marqué dans ma jeunesse. Et puis, on ne peut pas ne pas finir avec sans doute l'un des plus grands esprits de notre temps. Voilà, le philosophe de l'optimisme. C'était ainsi qu'on décrivait Jürgen Habermas, qui a quand même décidé de rester assez longtemps sur cette terre pour partir avec un petit peu d'ironie, lui qui avait la bouche fendue, eh bien, ça lui donnait toujours un petit air, d'amusement face à une époque dont il avait connu tous les tourments, voilà, de la jeunesse hitlérienne au rang de l'université, plutôt à gauche. Voilà, un personnage de notre époque qui disparaît et sans doute le plus grand penseur actuel. Eh bien, écoutez, est-ce que vous avez le temps d'écouter quelques dates d'agenda ?
Mais on a largement le temps, Monsieur Kogan. Juste pour dire que Herman, évidemment, Jérémia, c'est dans un monde post-apocalyptique. Donc, c'est bien, c'est de la prévision, c'est pas mal. Et que c'est un gars qu'on a vu plusieurs fois au Salon du Livre à Limoges, qui venait dédicacer ses BD. Et il y avait toujours du monde, évidemment, parce que c'était quand même
Parce que c'était quand même Herman.
Voilà, c'est ça.
Toujours accessible. Alors, parmi les dates, je voulais commencer en donnant... Alors, c'est toujours un peu compliqué de donner toutes les dates de tout, mais comme nous avons des auditrices et des auditeurs creusois, eh bien, je voulais d'abord vous dire que la Guerre Étoile de spectacle est toujours très en forme, puisque la compagnie de l'Astrolabe viendra le mardi 31 mars jouer une pièce qui s'appelle Esther, d'après la petite fille du passage Ronce, d'Isabelle Ernaud. Voilà. Autre chose, le jeudi 2 avril, il y aura une performance, c'est la compagnie Have a Nice Day. Voilà. Donc, moi, je ne sais pas trop de quoi ça parle, enfin, vous verrez, c'est toujours à découvrir. Voilà, sinon...
Il faut ressouligner que quand même, la Guerrétoise fait une saison absolument incroyable. Alors, ce n'est pas la première fois, mais on ne va pas se mentir, là, quand même, il y a eu des pièces, à succès.
Absolument. Alors, au moment où nous parlons, Didier Super et son groupe Discount sont en train de régler les basses. Donc, pour pouvoir jouer au Centre culturel Ifuret, donc dans quelques instants. Donc, vous n'aurez peut-être pas le temps d'aller le voir. Bon,
donc, la souterraine, donc.
Voilà. Et
avec bon à rien, toujours dans les bons plans.
C'est vrai, il y a bon à rien au
début. Bien sûr.
Toujours. Quelle soirée. Absolument. Alors là, vous savez à quelle heure vous rentrez, vous ne savez pas à quelle heure vous repartez. Hein. Je préfère vous prévenir.
Et donc, elle est. Et donc, toujours au Centre culturel Ifuret, vendredi 3 avril. Là, c'est un spectacle jeune public. Ça s'appelle Versant vivant. Voilà, palette sonore d'un rêve éveillé. Donc, voilà, à en profiter. Alors, c'est la journée. Hein. Voilà, c'est un spectacle jeune public. Voilà, voilà. Et bientôt, il y aura encore un grand nom sur cette scène. Donc, là aussi, une programmation absolument géniale. Côté Haute-Vienne, écoutez, à l'espace Noriac. Eh bien, il y a du théâtre avec Madame Marguerite, la compagnie « Je dis ça, mais je dis rien ». Donc, Madame Marguerite, leçon d'un autre genre. Donc, c'est du 25 au 28 mars à 20h30. La culture bonjour, commence d'ailleurs le 28 mars, donc au 12 avril. Alors, on aura le temps d'en reparler, mais le Théâtre de l'Écale présente une pièce qui s'appelle Crime. Et puis, vous aurez aussi du flamenco à la Vuelta de la Esquina par Alma Flamenca le 3 avril à 20h30 de la chanson française Les Ébulettes le 4 avril à 20h30 aussi. Voilà. Et puis, écoutez, on parlera du reste plus tard. Alors, quelques autres dates quand même pour ne pas laisser des rendez-vous dans l'inconnu. Une dédicace de Claude Brunnery. Évidemment à Page et Plume, c'est samedi dès 10h du matin. Parler quand même un petit peu du festival Horizon Vert qui continue, hein, qui a déjà commencé au moment où on parle et qui continue. Alors il y a plein d'événements et entre autres Esprit Rebelle, c'est à 15h. Voilà, donc vous aurez à Saint-Léonard de Nobla, c'est au cinéma bien sûr. Donc là il y a plein de choses qui sont prévues dans le cadre de ce festival dont on peut dire qu'il est écolo. Voilà, est-ce qu'on peut encore dire ça aujourd'hui? Je ne sais pas. Un concert chez Sotheby's à Moissan, samedi à 19h30. Les Six Singes, eux, alors ça a l'air marrant comme groupe, joueront au Limoges à 19h30 samedi. Magic Touch Limoges Sound Club, évidemment, c'est Yvan Cyrano au platine à la Casa Espagne à 19h30. Une pièce de théâtre au Four des Cassos, et ça, c'est original. Évidemment, il s'agit d'une pièce que tout le monde connaît à Limoges, en tout cas dans les bons milieux. C'est Limoges, avril 1905. Hein. C'était évidemment l'équipe de Joël Nivard qui avait produit ce spectacle, et donc qui sera joué à 20h samedi au Four des Cassos.
Mais alors, où c'est qu'ils mettent le public?
Ah, ben écoutez, je suis curieux.
Ouais, d'aller ça doit voir être ça. Étonnant, ouais.
Les Vulva Assassines joueront elles aussi, si tout va bien, samedi. Alors, j'ai pas bien compris, mais il me semble que c'est aussi à Yves Furet, samedi. Niorla et Musique pour rire. Niorla et Musique pour rire. Eh bien, écoutez, c'est au cinéma Le Colisée, voilà, donc à Châteauneuf, à samedi 20h. Samedi, il y aura aussi Vincent Delerme. C'est un peu plus pour les bobos, à l'Opéra à 20h30. Le groupe RAF jouera à Nexon dans le cadre du Festival de la Culture au Grand Jour. Colquez jouera au Cabaret 3XL. Et puis, pour ceux qui ont envie d'aller voir du théâtre, il y a aussi du théâtre donc avec La Femme du Boulanger. Alors, j'imagine que c'est du Pagnol, évidemment, c'est le cas de le dire. C'est au Rock à Panazol dimanche. Voilà, donc c'est à 16h. Le festival toujours Horizon Vert avec un film qui s'appelle Planète et donc qui sera diffusé à 16h au cinéma à Saint-Julien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, écoutez, il y a au petit J, il y a la birthday party avec Beach Monsters, Juju and the Dweebs. Donc là, je pense que il y a moyen de passer un bon moment. C'est donc mercredi 1er avril à 19h au Petit Jourdan. Ça va en tout cas envoyer du gros son. Rencontre et lecture, Salomé Botella et Lucille Leloup seront là pour parler de leurs derniers ouvrages. Et je pense que là, on est toujours place de la Motte à la librairie Page et Plume. Il faut qu'il y ait encore des lieux de culture dans cette ville.
Oui, alors j'en profite pour annoncer un événement qui aura lieu, lui, à la librairie Vie Minuscule à Guéret. C'est un événement, alors je vous donne juste l'intitulé, Thé et littérature japonaise, ça sera le samedi 4 avril.
Ah, super! Eh bien, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Sylvain Chauveau sera au FRAC, à l'Artothèque, faire un petit concert, un concerto. Il y a un petit jeu de mots là, à 18h30, jeudi 2 avril. Les Ébulettes, donc j'en ai parlé, mais elles joueront aussi au Troquet Culturel, jeudi à 20h. Et puis, je pense quand même qu'on peut citer le duo Doc Lou, vendredi 3 à 19h30 au Limoges. Raphaël James Trio, donc ce sera le vendredi 3 aussi au Cabaret 3XL. Et puis, pour finir, Tatatin, samedi 4 avril, les chansons de Renaud. Voilà, et là, c'est à Saint-Léonard de Noblat, salle Denis Dussou, à 20h30 samedi. Évidemment, y a de quoi passer un bon moment avec Denis au chant. Eh bien, écoutez, moi, je vais peut-être m'arrêter là.
Mais écoutez, pour quelqu'un qui ne voulait plus donner de date, c'est pas mal, hein, c'est copieux quand même comme agenda.
Ah ben, il ne se passe jamais rien ici pourtant.
Bon, mais on va se quitter sur ces bonnes paroles. On vous tient au courant pour la page Facebook. Je ne sais pas quand on se retrouve, en fait. Voilà. C'est la semaine prochaine. Ça va être compliqué pour gérer tout ça. Alors,
oui, en réalité, voilà, il n'y aura probablement pas de nouvelle émission. La semaine prochaine, on se retrouve. La semaine suivante...
Mais il n'y aura peut-être plus de planète non plus, donc on s'en fout.
Ah.
Bah non, quand
faites
même.
Pas cette tête, Madame Ariette. C'est pas grave. On partira tous dans la joie. Allez, on se dit à bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Kogan. Ça faisait vraiment plaisir de vous entendre sur cette antenne. Et puis,
Kenavo.
Voilà, Kenavo, c'est ça, je cherchais.
Allez, très bonne semaine et on se retrouve très probablement dans 15 jours. Mais d'ici là, vous devriez avoir des rediffusions.
Vous êtes comme ça, vous, Madame Ariette. Alors, vous rediffusez.
Ah non, c'est pas moi qui décide.
Ah bon. Voilà, c'est ça. Allez, on vous aime.
Une taverne du vieux Londres où se retrouvaient des étrangers. Nos voix criblées de joie montaient de l'ombre et nous écoutions nos cœurs chanter. Chercher la taverne dans mon cœur, tout comme autant de fleurs où l'on vivait sans peur, où chaque jour avait un goût de miel. Ton bras prenait mon bras, ta voix suivait. Prenez mon bras, ta voix suivante.